Alors, cette semaine, dans la lecture de la Torah, nous allons lire deux parachotes, car nous sommes en retard par rapport au Eretz Israël. Quand c'était la fête de Shavuot, c'était vendredi, samedi ici. En Israël, c'était que vendredi, ce qui a fait qu'eux, ils ont avancé une paracha, mais il faut que nous arrivions tous à la même ligne le jour de Simchat Torah. Alors, ce qui fait que ce Shabbat, nous allons nous rattraper en lisant deux parachotes, qui est Chukat et Balak. Alors, rapidement, le sommaire de Chukat et Balak. Chukat, c'est la première paracha qui nous parle d'une mitzvah bien spécifique qui n'existe plus. C'est une mitzvah que la Gemara dit que c'était un miracle, en effet. C'est la vache rousse. C'est ce qu'on appelle para aduma. Et la para aduma, c'était depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait que 9. Et on dit que la 10e viendra, quand Mashiach viendra, c'est on trouvera la 10e. Il y avait plusieurs qui ont été déjà trouvées. En France, il y a 2 ans, il y a une qui a été trouvée, mais cette vache-là, il faut l'acheter quand elle a 3 ans. Ça veut dire que tu la laisses entre les mains du non-juif, de l'élever et tout. À l'âge de 3 ans, nous l'achetons, mais malheureusement, chaque fois, quand elle atteint l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, on le trouve 2 poils noirs qui la rendent non valide et c'est pas valable pour la mitzvah. Mais le jour qu'on trouvera, c'est ça, une dernièrement qui a été trouvée, mais malheureusement, elle aussi, à 2 ans et demi, elle a eu 2 poils noirs dans l'oreille qui lui sont sortis, mais quand elle viendra, quand on la trouvera, ça serait la venue du Mashiach, parce qu'on pourra se purifier, on ne peut pas se purifier tant qu'on n'a pas la vache rousse. Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, tout un processus qu'on fait avec, la première paracha nous explique, il faut la donner au second du Kohen Gadol, il va la brûler sur la montagne qui se trouve en face du temple. Le centre qui va s'accumuler de cette vache qu'on a brûlée, on va le mélanger avec de l'eau et là on va asperger tout homme qui est impur et il se purifiera à l'aide de la cendre de cette vache. Là, ça c'est une mitzvah qui n'a pas d'explication. Pourquoi elle n'a pas d'explication? Car il y a une chose bizarre. Celui qui est impur, il est venu pour qu'on le purifie. En aspergeant un peu d'eau sur lui, il devient pur. Mais le Kohen qui l'a purifié et qui était pur, avant de venir, il devient impur. Comment ça se fait que quelqu'un qui est impur avec le sang de la vache rousse devient pur, et quelqu'un qui était pur, le Kohen qui était pur, il devient impur? Ceci n'a pas d'explication. Même le roi Salomon, avec toute sa sagesse, il a dit, j'ai cherché, et j'ai essayé de mon mieux possible, mais je n'ai pas arrivé encore à comprendre le sens de cette mitzvah, car c'est un sens qui a été caché. Le seul qui savait, le seul au monde qui le savait, c'est Moshe Rabbeinu. À part Moshe Rabbeinu, personne n'a eu le secret de cette vache. Pourquoi elle purifie l'impur et impurifie le pur? Ça n'a pas d'explication. Mais, par contre, Rashi dit quelque chose d'intéressant. Rashi dit que la nation du monde, ils essayent de nous toujours poser la question, pourquoi cette mitzvah? Et Rashi dit, il ne faut pas leur répondre, il faut leur dire, on ne sait pas. Nous-mêmes, nous ne savons pas. Car en vérité, il y a un certain sens à cette mitzvah. Et Rashi rapporte ce sens au nom de Rabbi Moshe Adarshan. Rashi rapporte que cette vache qui est complètement rouge, elle est rousse, et la rougeur représente l'or. Cette vache ressemble à une mère qui travaille dans le palais royal, et son fils qui est venu, il a sali le palais. Et là, le roi qui est énervé contre la servante, il lui dit, viens nettoyer la saleté de ton fils. La même chose, le peuple d'Israël qui a fait le veau d'or dans le désert, à Kosh Baruch Hu, il a appelé le peuple juif et dit, alors faites une vache rousse qui va nettoyer la saleté du veau d'or, le veau qui est le fils de la vache, que la vache rousse nettoyera la saleté de l'or qui est du veau d'or. Maintenant, ça c'est une raison qu'on peut expliquer, qu'on peut comprendre, mais le vrai sens, personne ne le sait. Mais Rashi dit, même cette raison, il ne faut pas l'expliquer aux non-juifs. Pourquoi? Alors, ils expliquent sur Rashi, ils expliquent pourquoi, parce qu'en vérité, pourquoi est-ce que la nation du monde, ou le Satan, Rashi dit, même le Satan nous pose la question. Pourquoi la nation du monde et le Satan vont nous poser la question, quel est le sens de cette vache? Parce qu'ils veulent justement qu'on parle de cette mitzvah. Pourquoi? En disant que cette vache, elle vient expier pour la faute du veau d'or, ça évoque la faute. Et ça fait rappeler cette faute, et là, le Satan, il trouvera l'occasion d'aller parler le mal contre le peuple d'Israël, ou les nations du monde. Ils vont aller trouver l'occasion de parler le mal contre le peuple d'Israël. Dit Rashi, dans ce cas, vous ne répondez rien. Dites, on ne sait pas. Même le roi Salomon, il a dit qu'il n'a pas trouvé le sens de cette mitzvah. Alors, nous ne pouvons pas répondre, et de telle manière, on échappe cette question, sans arriver à l'expliquer, et là, on tombait dans le piège. que le Satan va évoquer cette faute de la vache rousse. Bon, ça c'est le début de la paracha qui part de la vache rousse, et ensuite dans la paracha, le suite de la paracha, malheureusement la paracha nous parle du décès de deux grands tzadikim qui nous ont accompagnés dans le désert. C'était les deux frères. La première c'était Myriam Anevia, et le deuxième c'était Aaron HaKohen. Malheureusement, ce tzadikim là, ils sont décédés. C'était la paracha parle à la fin de la 40e année dans le désert. Et là, avant de rentrer en Israël, Myriam Anevia, elle est décédée. Et c'est pas que seulement qu'elle est décédée, elle a repris son cadeau. Akadosh Baruch Hu a repris le cadeau qu'il nous a donné. C'est quoi le cadeau qu'il nous a donné? Les trois frères, chacun nous a donné un cadeau. Myriam nous a donné un puits d'eau qui nous a accompagnés 40 ans dans le désert. Aaron nous a donné le cadeau des nuages. Sept nuages qui nous ont accompagnés dans le désert, quatre aux quatre coins cardinaux, un nuage en haut, un nuage en bas pour aplatir le terrain, un nuage en avant pour qu'on puisse marcher. Et à Moshe Rabbeinu nous a donné le cadeau de la manne, ce pain céleste qui tombait du ciel. Alors avec le décès de Myriam, malheureusement, il y a le puits qui a disparu. Ceci a causé beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que c'est pas rien que le décès de Tzadeket. C'est déjà grave. Une Tzadeket comme Myriam qui décède, c'est grave. En plus de cela, son cadeau qui a été repris, c'est aussi grave. Mais la troisième chose, quand le peuple a commencé à demander de l'eau, qu'on n'y avait plus de l'eau, le peuple a commencé à demander de l'eau. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, voilà un rocher. Il lui a montré un rocher et dit, tu vas parler à ce rocher qui donne de l'eau. Et malheureusement, c'était la seule et unique faute de Moshe Rabbeinu. Au lieu de parler au rocher, il a frappé. Et là, malheureusement, il a été puni, lui aussi, de ne pas rentrer en Eretz Israël. Alors, c'était grave, au point de vue qu'on a perdu une tzadekette. On a perdu le cadeau qui a accompagné cette tzadekette. Et en plus, Moshe Rabbeinu qui va être puni, qui n'aura pas le mérite de rentrer en Eretz Israël à cause de cette eau. On va pas parler aujourd'hui de pourquoi il a frappé, pourquoi il n'a pas parlé. Ça, c'est tout un cours en lui-même. On a parlé une fois, mais en vérité, on va pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. À la fin, la paracha nous parle de Aaron HaKohen, que malheureusement lui aussi va décéder aujourd'hui dans la paracha. Il va décéder à l'âge de 123 ans. 123 ans, Akadosh Baruch Hu va lui demander de monter sur une montagne, et là-bas, il y aura un caveau qui est prêt pour lui. Le caveau s'est ouvert, et il est rentré avec son frère, Moshe, et avec son fils Elazar. Et là, Aaron, il a eu le mérite. Le Ramban, le Nachmani explique, il a eu le mérite de voir que son kavod, son honneur qu'il a eu dans sa vie, a été transféré à son fils Elazar, que c'est Elazar qui va prendre la relève, c'est lui qui va prendre sa place. Alors qu'est-ce qui arrive? Moshe a demandé à Aaron de se déshabiller, et il lui a passé les habits du Kohen Gadol à son fils Elazar. Ensuite, il s'est allongé sur le lit. Il y avait là-bas, Rachid dit, une petite table avec une candélabre, une bougie allumée sur la candélabre, et il lui a demandé, ferme tes yeux, ferme ta bouche, et c'est comme ça qu'Aaron a décédé. Et Rachid dit que Moshe a envié son frère pour cette mort, ce type de mort, que s'allonger et partir sans douleur, sans souffrance. Et à plus tard, à Kosh Baruch Hu, quand il va demander à Moshe Rabbeinu aussi de quitter ce monde, et il voudra pas, il dit, au moins tu as le mérite, que ce que tu m'as demandé le jour du décès de ton frère, je vais le faire pour toi aussi. Mais malheureusement, on a perdu aussi Aaron. Maintenant, la partie essentielle, c'est que je vais vous parler, qu'est-ce qui arrive après le décès de Aaron? Voilà, la Torah nous dit que le Knaanite ont écouté le décès d'Aaron. Comment ils ont écouté? Dit Rashi tout de suite, on voyait que les nuages sont envolés. Il n'y avait plus de nuages qui protectrices. Il n'y avait plus de nuages qui ont protégé le peuple. Alors là, on voyait le peuple d'Israël sans nuages. Le Knaanite qui ont écouté, ils ont dit, ça c'est l'occasion de les attaquer. Le peuple d'Israël, c'était impossible de les atteindre, les attaquer, car ils étaient couverts par les nuages. Toutes les guerres que nous lisons dans la Torah, quand les nations du monde sont venues attaquer le peuple d'Israël, toutes ces guerres-là, qui ils ont attaqué? Ils ont attaqué tout celui qui a fait un péché, qui a été rejeté du nuage. Le nuage ne supportait pas quelqu'un qui faisait des péchés. Alors, le nuage couvrait le peuple d'Israël, et tout celui qui faisait un péché, le nuage s'est plié sur lui, et il était hors du nuage. Et quand les nations du monde venaient attaquer, c'était impossible pour eux d'attaquer le peuple d'Israël. Ils attaquaient que ceux-là qui étaient en dehors du nuage. Mais là, tout le peuple, ils étaient sans protection. Vaishma Knaani, dit la Torah, le Knaanite ont écouté qu'est-ce qu'ils ont écouté. La Torah ne dit pas qu'est-ce qu'ils ont écouté, mais Rachir dit, ils ont écouté qu'Aaron est décédé, et voilà, ils sont plus sans protection, et ils sont venus faire la guerre contre le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui arrive dans cette guerre? On a réussi à faire une contre-attaque. Il y avait une servante qui a été capturée, qui était beaucoup, parce que normalement, quand on sortait dans une guerre, il n'y avait aucun mort. Dans toute la guerre d'Israël, à l'époque de Moshe Rabbeinu, personne n'est mort. Parce qu'on a expliqué une fois dans un cours, le seul qui sortait pour une guerre d'Israël, c'était des grands tzadikim. Un tzadik à 100%, un tzadik à 99%, il ne pouvait pas sortir à une guerre. Alors, il y avait des annonces qui ont été faites. Qui c'est qui pense qu'il a le moindre de péché? Et c'est quoi le moindre de péché? C'est de parler, quand il posait ses téfilim du bras et le téfilim de la tête, il parlait entre les deux. Ça, c'est le moindre de péché qu'il a pu faire. Et s'il a fait ça, même par erreur, il n'avait pas le droit de sortir en guerre, car il n'y avait pas de garantie qu'il revient en vie. Et là, tout celui qui sortait, c'était un grand sadique. En retour, il y avait un retour à 100% de tous les soldats. Là, pour qu'une servante se fasse capturer, c'était beaucoup pour le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que la Torah le mentionne. Pourquoi la Torah a besoin de dire, ils ont capturé une servante? Et une servante, c'est rien du tout. C'est une servante, c'est pas grave, non. Même une servante, c'est beaucoup dans une guerre de peuple d'Israël qui gagnait toujours la guerre. Et qu'est-ce qui est arrivé exactement? Alors là, on va expliquer selon qu'est-ce qu'ils disent le commentateur à propos de cette paracha. Quand le peuple d'Israël, ils ont vu qu'Aaron est décédé, ils se sont attaqués encore à Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, comment est-ce que Aaron, que la semaine dernière, on a lu dans la paracha, il a arrêté l'ange de la mort. Quand il y avait une épidémie, vous rappelez que dans la paracha de Korach, le lendemain, tout le peuple ont commencé à se disputer avec Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait que tu n'as pas pardonné à Korach? Et à cause de toi, il y a 300 personnes qui sont mortes. Qu'est-ce qui arrive le lendemain? 14 700 personnes qui décèdent dans une épidémie. Qui c'est qui a arrêté l'épidémie? La Torah dit, c'est Aaron. Comment il a arrêté l'épidémie? Il a fait la Ketoret. L'encens. Merci. L'encens que l'ange de la mort a donné comme cadeau à Moshe Rabbeinu quand il était au mont Sinaï. Moshe a enseigné cela à Aaron, et Aaron, il a arrêté l'épidémie par la Ketoret. C'est pour ça que la Ketoret, l'encens, c'est très important de le lire chaque jour. Vous l'avez dans votre sidour, dans la prière journalière, et c'est pas obligé de lire Shachrit, vous pouvez lire durant la journée. Toujours on dit que n'importe quel problème qu'une personne est là, c'est bien de lire la Ketoret. Ketoret, j'en peux pas de la page, mais la Ketoret se trouve, c'est la première page de la prière de Shachrit, l'encens, c'est ça, l'encens, et c'est très recommandé en plus de cela, de la lire sur un parchemin, sur un klaf. Là c'est la vraie ségoula de la lire. Apparemment, c'est bon pour le Ségoula, pour Panassa, pour Efouach Lema, pour plein de choses. La Ketoret, c'est bien, parce que c'est l'ange de la mort lui-même qui a donné ça comme cadeau à Moshe Rabbeinu. Alors ça, c'est un passage de prière très très important pour n'importe le quoi. Et nous, le lisons, ça veut dire les hommes le lisent trois fois par jour au moins. Oui, c'est le même. Donc, Patach Eliaou, c'est Patach Eliaou? Oui. Voilà, c'est la page 27. C'est la page 27 de Patach Eliyahu. Ça commence par Atahu Hashem Elokeinu Shiktiru Avotein Lefanecha Et Ketorot Hasamim Bizman Shemidash Kayam Kasher Tzivotam Hashem Yah Ketuv Betoratach. Et là, vous avez tout le passage de la Ketoret. Vous pouvez faire la fin. La Ketoret, c'est pas. Vous pouvez lire toute la journée la Ketoret. C'est pas obligé de la lire Shachrit. Vous pouvez la lire en milieu de travail. N'importe quand, on pouvait lire la Ketoret. Bon, alors, le peuple d'Israël, on commençait à se disputer avec Moshe Rabbeinu. Est-ce que l'homme qui avait le secret de la Ketoret, est-ce qu'il est possible qu'il décède? Et là, il voulait lapider Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe, en retournant de cette montagne où il a enterré son frère, il est retourné seul. Et là, ils ont dit, c'est impossible qu'Aaron est décédé, tu as dû le faire quelque chose. Et là, Kosh Baruch Hu a dû, Rashi rapporte, il a dû faire un miracle, sortir le lit de Aaron en l'air comme ça, pour leur montrer qu'il est vraiment décédé. À cause qu'ils se sont disputés avec Moshe Rabbeinu, les Knaanites sont venus les attaquer. Ils sont venus les attaquer et là, ils sont préparés pour une guerre. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui arrive. Et vous allez comprendre que même les nations du monde apprécient notre prière. Aujourd'hui, on va parler aujourd'hui un peu sur l'importance de la prière. Et la prière d'un juif qui se fait du fond du cœur, même un goy peut la comprendre. Pourquoi ? Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait, ce Knaanite-là. Rachid dit, qui c'est ce Knaanite ? Ce Knaanite, c'est qui ? C'était pas des Knaanites. C'était des Amalekites. Mais pourquoi la Torah les a définis comme Knaanim ? Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, nous savons que chaque fois que le peuple juif fait appel à leur Dieu le répond. On voit dans toutes les guerres, parce que d'ailleurs c'est la première nation qui a attaqué le peuple juif après la sortie d'Égypte, c'était les Amalekites. Et ils ont perdu la guerre. Toutes les nations qui ont essayé, ils ont perdu. Les Amalekites, ils ont dit, ça veut dire qu'ils ont une force dans leur prière, mais on va leur tromper. Quand quelqu'un fait une prière, et c'est une fausse prière, ou une prière qui s'est trompée dans la prière, c'est pas une prière. Je vous donne un exemple. Vous priez Rosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh. Si vous avez oublié de dire Ya'alev et Yavo, c'est comme si vous n'avez pas prié. C'est ça? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ya'alev et Yavo. Même si c'est un oubli. C'est comme si vous n'avez pas prié. Et dans ce cas, il faut reprendre la Amida depuis le début. Ça dépend aussi. Si vous n'avez pas encore terminé la Amida, vous retournerez du Retsé. Le passage de Ya'alev et Yavo, Retsé, jusqu'à la fin. Mais si vous avez terminé la Amida au complet, et là vous dites, mais aujourd'hui c'était Rosh Chodesh, et j'ai oublié de faire Ya'alev et Yavo, votre prière n'était pas valable parce que vous n'avez pas sanctifié le mois dans votre prière. Ça veut dire que la prière, c'est très important qu'elle soit précise. La seule chose, c'est Rosh Chodesh, si vous faites Arvit, et vous oubliez de dire Ya'alev et Yavo, c'est on ne reprend pas. On parle que de la prière de Shachrit et Mincha, parce qu'il n'y avait pas de sanctification du mois durant la nuit. C'était fait qu'en journée. Maintenant, le Knaanite, le Amalekite, ils ont compris que toute la force d'Am Israël, ce n'est pas la force physique, c'est une force spirituelle par la prière. Dirachi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez qu'est-ce qu'ils ont, ils sont partis faire. Ils se sont déguisés, ils sont habillés comme des Knaanites pour tromper le peuple d'Israël. Et ils ont dit, quand le peuple d'Israël va nous voir, habillés de telle manière, parce que chaque nation avait sa manière de s'habiller, ils vont nous voir comme des Knaanites, ils vont prier à leur Dieu, livre le Knaanite entre nos mains. Mais est-ce que c'est des Knaanites? Non, c'est des Amalekim. Alors ils ont dit, c'est sûr qu'ils vont se tromper dans leur prière, et là on va leur gagner. Et là, le peuple d'Israël, ils avaient une chance. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui les a éclairés dans leur prière. Qu'est-ce qui est arrivé? Dit Rashi. Tout ça, c'est pas écrit dans la Torah. Tout ça, c'est Rashi qui nous apporte, parce qu'il apporte ça du Midrash. Rashi dit, quand ils sont venus à la guerre, ils ont vu des Knaanites en face d'eux, habillés comme des Knaanites. Mais ils voyaient qu'ils parlaient entre eux comme des Amalekites. Ils disent, c'est pas possible. Pourquoi ils sont habillés d'une manière et ils parlent d'une autre manière? Qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont des Knaanim ou est-ce qu'ils sont des Amalekim? Quelle prière ont fait? Si on se trompe dans la prière, on risque de perdre la guerre. Dit Rashi, Akadosh Baruch Hu les a donné une idée de faire une prière parvée. Vous savez qu'est-ce que c'est une prière parvée? Neutre. Qui veut dire quoi? Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, livre ce peuple. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont Knaanim? Est-ce qu'ils sont Amalekim? On ne sait pas. Ce peuple qui est devant nous, tu le livres entre nos mains. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. C'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre, parce qu'ils n'ont pas dit quelque chose qui est faux. Ils n'ont pas dit quelque chose qui est faux. S'ils auraient dit Knaanite, ils auraient perdu. S'ils auraient dit Amalekite, ils auraient peut-être gagné ou perdu. Mais là, ils ont dit ce peuple. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont. Et ils avaient raison. Ce peuple, c'est n'importe quel peuple. Et ils ont. Pour dire de là, Rashi nous apprend, il est très important de préciser dans sa prière sa demande. Qu'est-ce que tu demandes à Akadosh Baruch Hu? Si tu ne précises pas, la demande ne viendra pas. Et ce soir, avec Hachem, je vais vous donner quelques exemples là-dessus. Alors, par exemple, il y a un père, ça c'est une vraie histoire qui s'est passée en Israël, il y a un père que son fils avait une certaine maladie. Et il est parti chez tous les tzadikim. Tout le monde qui lui fasse la prière, qui guérit de cette maladie. Et ce fils, il a guéri de cette maladie. 2 semaines plus tard, malheureusement, il était frappé par une voiture et il est décédé. Là, le père n'a pas compris. La maladie qu'il avait, c'est une maladie qui est très rare et grave. Il a été sauvé, il a été guéri. Et là, il est frappé par une voiture. Comment c'est possible? Il est parti voir un grand tzaddik. Et ce tzaddik, il a dit, parce que vous avez mal prié pour votre fils. Sous votre fils, il y avait un décret. Un certain décret qui doit mourir. Alors, on lui a donné cette certaine maladie. Vous avez demandé à tous les tzadikim qu'il a vu, qui prient pour cette maladie. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont prié, ils ont réussi. Cette maladie s'est enlevée. Mais le décret est resté. Il y avait un décret qui doit mourir. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Pas prier pour cette maladie, pour prier que le décret s'enlève. Et le fait que vous avez prié que pour cette maladie, la maladie s'est enlevée, mais le décret est resté, ce qui a fait qu'il est mort par accident de voiture. Pour dire que c'est très important, quand vous faites une prière, de préciser vos demandes. Pas rien que prier et dire, voilà, je fais ma prière. Non, tu dois aussi préciser exactement qu'est-ce que tu veux qu'Akash Baruchou te donne. Un autre exemple, dans le Talmud, il y a un passage intéressant. Quelqu'un qui avait un champ. Et normalement, il plantait dans ce champ, il plantait de graines de blé. Un jour, il a engagé un ouvrier et lui a dit, va me planter de graines de blé parce que cette saison, je ne pourrai pas travailler. Et l'ouvrier, il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a planté des graines d'orge. Maintenant, il y avait une inondation dans cette région et tout le champ, alentour, ces champs incluant ce champ, ont été frappés par l'inondation. Toute la récolte s'est abîmée. Maintenant, la Gemara dit que le propriétaire du champ, il a emmené ce monsieur qui travaille pour lui pour Din Torah. Pourquoi Din Torah? Il dit, tu m'as fait perdre. Il dit, comment je te fais perdre? L'inondation a frappé tous les champs, sans exception. Il dit, oui, mais tu as planté de l'orge. Il dit, et si j'aurais planté du blé, tu crois que c'est la pluie, elle a tout détruit? Il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, parce que moi, quand je faisais mes prières, je dis à Kosh Baruchou, réussis-moi dans la récolte de blé cette année. Et toutes mes prières, elles étaient sur le blé. Toi, tu as planté de l'orge. Et la Gemara discute. Est-ce qu'il a raison ou pas? La Gemara dit, oui, il a raison. Car il était possible que par ses prières, malgré que tous les autres champs aient été inondés, que son champ sera sauvé, épargné, parce que peut-être il a bien prié. Mais le fait que l'autre, il a planté de l'orge, ça empêchait la prière de ce propriétaire. Et là, la Gemara dit, ce ouvrier-là, il doit payer à ce propriétaire tout le champ, car il lui a trompé dans sa prière. Pour dire, voilà, du Talmud, on voit que quand tu pries pour une chose, ce n'est pas la bonne chose, des fois, tu ne le reçois pas. La même chose, le Rav Ben Ishraï rapporte, il y avait quelqu'un qui marchait dans le désert. Et il avait chaud, il ne pouvait plus marcher. Il demandait à Kosh Bokhu qu'il envoie un âne pour qu'il puisse monter sur l'âne, mais il a mal demandé. Il a demandé à Kosh Bokhu parce qu'il était troublé et tout avec la chaleur. Il a dit, envoie-moi un âne qui va monter sur moi. Au lieu de dire qu'envoie-moi un âne qui va monter là-dessus, il va. Et qu'est-ce qui arrive? Le Rav Ben Ishraï rapporte, ça n'a pas tardé, un cheikh arabe qui passait dans le désert avec un âne, avec son bébé. Et le bébé était très petit, il ne pouvait pas marcher. Et ce cheikh arabe a donné la commande à ce monsieur-là. Il dit, maintenant, l'âne est fatigué, tu vas le prendre sur tes épaules jusqu'à la maison. Et il a dû prendre l'âne sur ses épaules durant tout ce voyage jusqu'à sa maison. Pour dire quoi? Sa prière a été exaucée. Qu'est-ce que tu as demandé à Kosh Baruch Hu? Un âne qui va monter sur toi? Voilà, tu as transporté un âne durant tout ce chemin. Pour dire combien il est important, quand on fait une prière, d'être précis dans la prière. Maintenant, en Israël et dans la guerre des six jours. Dans la guerre des six jours, en Israël, ils ont écouté une annonce sur la radio. Mais une annonce un peu bizarre. Les Syriens et les Égyptiens ont dit que s'ils gagnent la guerre, ils vont tuer tous les habitants d'Israël, sauf ceux-là qui habitent la région de Géoula, en Israël. À Jérusalem, il y a un endroit très religieux. On appelle cette ruelle-là Géoula. Tout le chassidim, il y a beaucoup de gens religieux par ce coin. Alors, ils ont dit, on va tuer tous les habitants d'Israël si on prend Israël, sauf ce coin. D'abord, personne n'a compris pourquoi ils ont dit ça. Quelle pitié ils ont de ce... Alors, peut-être parce que ces gens-là, ils sont plus religieux, alors par leur prière, ils vont être sauvés. Qui sait? Mais personne n'a compris cette annonce. Ce qui a fait que les gens ont commencé à avoir peur, et tout le monde a prié comme il faut, même ceux-là qui n'étaient pas religieux priaient en plus. Bon, la guerre s'est terminée avec la victoire du peuple d'Israël. Quand ils ont attrapé quelques Égyptiens, ils ont dit, c'est quoi cette annonce-là que vous avez fait, que vous allez tuer tout le monde, sauf ce genre-là de la région de la Shkouna de Géoula? Ils ont dit, ça c'était pour vous tromper. Ils ont dit, comment? Il dit parce qu'on sait que dans ce quartier, il y a plus de religieux. On croyait qu'en disant cela, ces religieux, ils vont dire, ah, alors quoi qu'il arrive, nous sommes saufs. Alors, on n'a pas besoin de prier. Et quand eux, ils vont arrêter de prier, là, on va vous gagner. Alors, regardez jusqu'où ils sont partis pour tromper le peuple d'Israël pour qu'ils ne prient. Cette région, ce quartier-là, ne prie pas pour qu'ils puissent gagner la guerre. Ça veut dire que même les nations du monde, ils connaissent la valeur de la prière de l'âme Israël, que quand ils prient, à quoi je vous le réponds. Mais ils essaient toujours de nous tromper dans nos prières pour qu'on prie pour la mauvaise chose. Et même quand ils ne nous trompent pas, quand nous on se trompe, Chas v'Shalom, dans la prière, la chose qu'on aurait voulu ou souhaité avoir, malheureusement, ce n'est pas toujours qu'elle peut arriver. Le Zohar, dans cette semaine, il explique quelque chose d'intéressant. Comme on a expliqué, Myriam Anevia nous a donné un cadeau. Le cadeau, c'était le puits de Myriam qui nous a accompagnés dans le désert. Maintenant, un puits, c'est petit. Il y avait 3 millions de personnes. Comment est-ce que 3 millions de personnes, ils pouvaient boire de ce puits? Est-ce que chacun mettait son seau dans le puits? Ça aurait pris des mois et des mois pour aller chercher, puiser de l'eau. Alors comment on buvait de ce puits? Explique le Zohar. Le puits, il montait, il débordait. Et là, il y avait comme une petite inondation. Là, les chefs des tribus, chaque prince ou chef des tribus venait avec son bâton et il traçait une ligne du puits jusqu'à la tribu à laquelle il appartenait. Et là, par certaines prières, cette ligne se remplissait avec de l'eau, et c'est par là-bas que tout le monde puisait de l'eau. Explique le Zohar. Il était très important de dire la bonne chose. Si le prince ne disait pas la prière comme il faut, là, cette ligne-là ne se remplissait pas avec de l'eau. Et le Zohar explique, ceci, c'est pas rien que pour notre prière à nous. Il dit même pour la sorcellerie. Quand les gens font de la sorcellerie, c'est de la magie noire ou toutes sortes de choses qui se font, il y a des certains mots. C'est ça? Vous savez, c'est intéressant que, par exemple, les magiciens, quand ils jouent pour les petits enfants, qu'est-ce qu'ils disent? Abracadabra. C'est ça? Abracadabra. Vous savez que ce mot existe dans le Midrash. Quand le magicien de Paro, ils ont tourné leur bâton en serpent, ils ont dit abracadabra. Parce qu'il y a des certains mots que si tu leur dis comme il faut, avec la bonne intention, c'est ça la magie. Et si tu dis pas le mot comme il faut, tu pourras rien faire. Alors il dit même le prince d'Israël ou le sorcier de nation du monde, quand ils font ce qu'ils doivent faire, s'ils disent pas le vrai mot ou la chose qu'il faut dire, ça marche pas. C'est des codes. C'est des codes qui marchent pas de parole. Alors là, il explique, le Zohar explique un passage, peut-être que vous connaissez toutes, c'est le passage de Eliyahu Navi. Quand dans son époque, le peuple d'Israël était divisé, il y en a qui croyaient en Dieu, il y en a qui croyaient dans des idoles. Et là, Eliyahu les a dit, écoutez, vous ne pouvez pas croire en deux choses. Ou vous croyez en Dieu à 100%, si vous voulez, croyez dans vos idoles à 100%. Mais vous ne pouvez pas être partagé entre les deux, ou un ou l'autre. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une épreuve. Ceux-là qui croient dans les idoles, ils vont apporter un taureau. Et ceux-là qui croient en Dieu, Hachem, on va apporter un taureau. On construira un autel. Sur l'autel, on va mettre un de taureaux, et c'est lui qui criera vers son Dieu. Il va être répondu en quoi qu'un feu descend du ciel et elle consommera son sacrifice. C'est le Dieu et le reste sont soumis et ils sont obligés de suivre son Dieu. Tout le monde doit accepter. Ils étaient 400 en nombre, les idolâtres, contre tout le peuple d'Israël qui était un peu confus. Ils ne savaient pas exactement quoi suivre, mais ils ont dit, on va suivre celui qui va gagner. Là, eux, ils ont commencé en premier. Et c'est écrit dans le prophète, ils ont crié depuis le matin jusqu'à l'après-midi, et ça n'a pas servi. Et là, Eliyahu les a dit, peut-être votre Dieu est fatigué, peut-être qu'il est parti dormir, alors laissez-moi la chance de faire mon service. Alors il a enlevé le taureau qu'eux ils ont mis, il a purifié l'autel avec de l'eau, beaucoup d'eau, et là il a mis son sacrifice, et il a dit, Aneni Adonai, Aneni. Dieu, réponds-moi. Et dès qu'il a dit cela, il y avait du feu qui tombait du ciel. Elle a consommé son sacrifice. Tout le peuple s'est prosterné. Et tout le monde a dit, Adonai Elohim. Hachem c'est le Dieu. Et il a fait retourner le service d'Hachem dans tout le peuple d'Israël. Là, le Zohar se pose la question, mais pourquoi eux, ils n'ont pas réussi? Apparemment, s'ils étaient sûrs d'eux-mêmes, ils n'auraient pas accepté une preuve s'ils ne seraient pas sûrs. Ils étaient sûrs d'eux-mêmes qu'ils vont gagner. Qu'est-ce qui est arrivé? Dit le Zohar à Kosh Bauchou, les a donné une oubli, d'oublier tout le mot de magie qu'il devrait dire pour que le feu descende. Ils étaient capables par la magie de faire descendre du feu du ciel. Mais à Kosh Bauchou les a fait oublier tout le mot qu'il voulait dire. Alors il disait toutes sortes de choses, mais ça n'a pas marché parce que ce n'est pas les mots qu'il fallait dire. Il dit parce que même dans la magie, il y a certains mots qui doivent être précis. Et tant qu'il ne les a pas dit, alors ils ont perdu. Et là, on a vu, il a dit le bon mot, Hachem aneni, Hachem aneni. Hachem, réponds-moi, Hachem, réponds-moi. Et c'est comme ça que le feu est descendu pour lui, pour consommer son sacrifice. Alors pour dire, voilà, que dans une prière, il faut avoir beaucoup de ferveur, beaucoup de kavana. Et c'est pour ça qu'on dit, Yann Alakha, on a parlé de ça une fois, que si quelqu'un a le choix de prier, ou en hébreu, ou en français, anglais, espagnol, n'importe quelle langue, c'est sûr que de prier en hébreu, même sans comprendre, c'est mieux que de prier en français. C'est mieux. Mais ça ne veut pas dire que prier en français, parce qu'Akadosh Baruch Hu comprend 70 langues et plus, parce que je dis il y a plus que 70 langues. Seulement, dans la langue hébraïque, il y a des secrets. Donc chaque mot, ça a été choisi. Mais, si vous allez lire en hébreu et faire de fautes, ça veut dire que vous ne prononcez pas bien le mot, ils vont mieux déjà prier en français, parce que là, c'est ni du français ni de l'hébreu. Parce que le mot hébraïque, vous ne lisez pas propre, comme il faut. Alors là, ils vont mieux de faire en français. Mais si quelqu'un, il sait qu'il arrive à prononcer le mot comme il faut, le Mishnah Brura, il dit, il vaut mieux de prier en hébreu parce que le mot en hébreu, elle a plus de force au ciel. Mais Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, dans la prière, c'est quoi? C'est le ferveur, c'est l'intention que tu mets dans ta prière. Comme le Baal Shem Tov nous dit, qu'un Kippour, un jour de Kippour, qu'il a prié, à la fin de Kippour, il a tellement été content de sa prière, il a dit, c'est sûr que cette année, ma prière a été acceptée au ciel. Le soir, il a rêvé qu'il y a quelqu'un qui lui a dépassé par sa prière. Alors, il a demandé au ciel qu'on lui montre qui c'est que ce quelqu'un. On lui a montré. C'était un homme simple dans un village. Il est parti le voir. Il croyait que c'était un grand tzaddik. Des fois, il y a des tzaddikim qui sont cachés. C'est pas, des fois, tu vois un homme simple, mais tu sais pas qui se cache derrière cet homme. Et il commence à le parler, mais c'était vraiment un homme simple. Rien de spécial. Il dit, monsieur, on m'a montré du ciel comme quoi vous m'avez dépassé par vos prières, mais en quoi vous êtes spécial? Et l'autre commençait à pleurer. Il pleurait. Il dit, pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que cette année, j'avais pas l'occasion d'aller à la synagogue de faire la prière de Kippour. Je suis resté chez moi. J'avais pas de livre. Je savais pas faire la prière. Tout ce que j'ai fait durant les 26 heures de Kippour, je récitais le Aleph Bet. Aleph Bet, Gimel, Dalet, He, jusqu'à Taf. Et je répétais, je pleurais. Et c'est tout ce que j'ai pu faire. Et je sais que vous êtes venu ici pour me donner la morale. Pourquoi je suis pas parti à la synagogue? Le Baal Shem Tov dit, pas du tout. Du ciel, on m'a montré que votre prière a dépassé la mienne. Parce que la kavana, le ferveur que vous avez fait dans ce Aleph Bet, il m'a dépassé ma prière. Ça veut dire, c'est pas toujours le mot que tu dis. Il faut que le mot soit précis, mais des fois, l'intention que tu mets dans cette prière, elle peut dépasser la prière du plus grand tzaddik. Alors, ça veut pas dire que si vous priez en français, en anglais, ça ne vaut rien. Là, il faudra mettre plus de ferveur. Et là, votre prière va être acceptée. Alors, c'est deux choses. C'est prier avec le sens du mot et proprement, qui veut dire que, exact, il faut savoir, avant de prier, avant de demander à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu médites. Qu'est-ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu? Parce que si tu demandes une chose et c'est pas la bonne chose, c'est pas bon. Par exemple, j'ai vu un passage qui dit comme ça. Deux fois, on nous demandait à Kadosh Baruch Hu une richesse. On demande à Kadosh Baruch Hu une richesse. Mais est-ce qu'on sait que cette richesse est bonne pour nous ou pas? Regardez Korach. La semaine dernière, on a lu dans Parasha, Korach, il a prié pour une richesse. Qu'est-ce qu'il a eu par sa prière? Il a eu une grande richesse. On dit que Korach, il a été le plus riche du peuple d'Israël. Rien qu'il avait 300 ânes chargés des clés des trésors. Tout le monde ils avaient quoi? 20 ânes, 100 ânes, même pas 100. Lui, il avait 300 ânes chargés des clés des trésors. Imaginez-vous qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor? Combien de richesses il avait? Mais qu'est-ce que cette richesse a emmené? Qu'il soit mort. À la fin, parce qu'il a été usé pour le mal. Alors, il demandait à Kadosh Baruch Hu toujours pour une richesse. Et pourquoi? Parce qu'il a été jaloux du peuple d'Israël. Comment? À Kadosh Baruch Hu, le quelques jours avant de sortir, il a demandé au peuple d'Israël, sortez en Égypte et demandez aux Égyptiens qu'ils vous prêtent des bijoux, qu'ils vous prêtent des robes et tout. Mais il a interdit à la tribu de Lévi de le faire. Pourquoi? Il a dit, rien que ceux-là qui ont souffert durant les 210 ans, ont le droit de ramasser. Ceux-là qui n'ont pas souffert n'ont pas le droit. Or, la tribu de Lévi, ils étaient libres en Égypte. Durant les 210 ans, ils avaient le droit d'étudier et pratiquer le judaïsme librement. C'est pour ça que Moshe et Aaron rentraient librement chez Paro. Ils rentraient, ils sortaient, ils discutaient. Ils n'avaient pas de problème. Alors Kadosh Baruch Hu disait que la tribu de Lévi n'ont pas le droit d'aller demander de l'or et de l'argent. Korach était de la tribu de Lévi. Quand il voyait ses voisins en train de prendre de l'or et de l'argent et des bijoux et des robes, lui, il avait envie, il a demandé, moi aussi je veux. À quoi je lui dis, mais tu n'avais pas droit, tu n'étais pas asservi en Égypte. Il dit, oui, je veux. Il a fait des prières. Ses prières ont été exaucées. Et à quoi je me lui a donné une grande richesse. Pas une n'importe quelle richesse, une grande richesse. Ça veut dire que ses prières ont vraiment dépassé jusqu'au ciel. Mais le problème était que cette richesse était pour son mal. Parce que cette richesse a emmené qu'il a discuté avec Moshe Rabbeinu. Il a commencé à argumenter, à faire toute une machloket, une dispute. À la fin, il se trouvait en bas de la terre. Pourquoi? Parce que ce qu'il a demandé, ce n'était pas bien pour lui. C'est pour ça, quand on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, il faut le dire toujours, il faut ajouter « pour te servir ». Pour te servir, qui veut dire « je veux une richesse pour te servir ». Si cette richesse ne me donnera pas la chance de te servir, je ne la veux pas. Si une personne deviendra riche, et à cause qu'il deviendra riche, il devient riche, il va se laisser à Kadosh Baruch Hu, c'est le plus bon. Comme Eliyahu HaNavi, il rapporte dans le Midrash qu'Eliyahu HaNavi, il a vu un chassid, un homme pieux, qu'il était pauvre, mais il servait avec Kadosh Baruch Hu avec beaucoup de mouna. Et Eliyahu HaNavi priait pour lui. Il disait à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu laisses cet homme pauvre? Donne-lui un peu de l'argent, donne-lui qu'il puisse acheter de manger pour Shabbat, donne-lui qu'il puisse acheter de mitzvot, n'importe quoi. Et Kadosh Baruch Hu dit, laisse. Eliyahu HaNavi insistait. À la fin, Kadosh Baruch Hu dit, bon, tu veux l'enrichir, va l'enrichir. Eliyahu HaNavi est parti voir ce pauvre, ce chassid. Il lui a donné une pièce en or. Il lui a dit, garde cette pièce. Tu ne la gaspilles pas, mais grâce à cette pièce, tu vas devenir riche. Et c'était comme ça. De jour en jour, il a trouvé un travail. Ce travail lui a apporté de l'argent. D'ici là, il est devenu un grand richard. Mais depuis qu'il est devenu un grand richard, qu'est-ce qu'on dit dans la maxime des pères? Plus de biens que tu as, plus de soucis que tu as. Alors là, il faut s'occuper de tous ces magasins, il faut tous les ouvriers. Alors tu n'as pas le droit de faire shachrit parce qu'il faut que tu cours à une place. Tu n'as pas le temps de faire milcha parce qu'il faut que tu cours à une autre place. Et là, il courait, il a laissé toute sa religion. Il ne pouvait ni shachrit, ni milcha, ni arvit. Il ne pouvait pas faire shabbat parce que shabbat, il rentrait tard. Et après, je vous disais, Aliyah HaNavi, tu vois, il vaut mieux qu'il soit pauvre que riche. Regarde cette richesse, qu'est-ce qu'elle a emmené. Avant qu'il était pauvre, il n'avait pas de soucis. Il pouvait me servir, mais là qu'il est riche, regarde. Et là, on a vu, il est reparti chez lui. Il lui dit, tu te rappelles de la pièce d'or que je t'ai donnée l'année dernière? Est-ce que tu veux? Il dit, oui, bien sûr, j'ai plus besoin parce que maintenant, Baruch Hashem, il a beaucoup. Dès qu'il lui a donné la pièce, de jour en jour, il perdait de ses biens. Il perdait jusqu'à ce qu'il est devenu pauvre et il est devenu celui qui sert à Kadosh Baruch Hu Be'emouna. Pour dire que la richesse, ce n'est pas toujours évident que c'est bon pour nous. Mais on demande, on ne sait pas, peut-être oui, peut-être non. Mais on dit à Kadosh Baruch Hu, tu nous donnes si c'est pour ton service. Si tu sais que je pourrais te servir mieux, avec cette richesse, donne-moi-le. Mais si tu sais que ce n'est pas pour mon bien, je préfère de ne pas l'avoir. Et là, on est précis dans la prière parce que là, on va prier pour quelque chose. À quoi je pourrais l'en donner et ça va pour notre mal, ça ne vaut pas la peine de l'avoir. Alors voilà, ça c'est le commentateur explique l'importance d'une prière qui s'efface comme il faut, et ça c'est pour dire que chaque fois qu'on prie, il y a des prières qu'on ajoute nous-mêmes. Par exemple, vous savez que dans l'Amida, vous faites l'Amida, mais dans l'Amida, vous pouvez intercaler vos prières. Par exemple, quand vous priez à propos de malades, Refaen ou Hachem Venirafé, là-bas vous pouvez intercaler une prière pour un malade que vous connaissez. S'il y a quelqu'un qui est malade, il faut prier pour lui. Mais même dans la prière, par exemple pour un malade, on dit toujours il faut prier au nom de la mère. Quand on prie pour quelqu'un qui est malade, il faut toujours mentionner le nom de sa mère. C'est pourquoi? Parce que la mère, c'est toujours sûr. Le père, c'est pas sûr. C'est vrai. Chas de shalom, mais la mère, c'est toujours sûr. C'est ça? Alors, on dit qu'une mère, toujours. C'est sûr qu'on part même dans n'importe quelle situation, même si on connaît le couple, c'est le plus grand tzadikim. Mais en règle générale, selon la Torah, la mère, c'est sûr. La mère, c'est sûr. Et en priant au nom de la mère, ça fait plus d'effet. Mais par contre, pour quelqu'un qui décède, on prie au nom de son père. On prie au nom de son père. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, on va l'affilier à une tribu, toujours au nom du père. Parce que le nom de famille, c'est toujours le nom de famille du père et pas de la mère. Et quand quelqu'un décède, on doit l'affilier au ciel. De quelle tribu il va appartenir? Il va appartenir aux tribus du père. C'est vrai que la coutume est devenue que même pour quelqu'un qui décède, on prie au nom de la mère. Même celui qui décède au nom de la mère. Pourquoi? Ils ont pris ça de la maladie. que comme pour la maladie, il prie au nom de la mère, aussi pour le décès, il prie au nom de la mère. Mais des Ashkenaz, par exemple, les Ashkenaz prient au nom du père. Les Ashkenaz, ils prient au nom du père. Mais pour dire que voilà, même dans Mishé Berach, quand on prie pour quelqu'un, il faut préciser le nom de sa mère, parce que apparemment la Gemara dit la prière passe plus vite. En priant au nom de sa mère, la prière passe plus vite. C'est sûr qu'au nom du père, ça va passer, mais au nom de la mère, c'est plus sûr que la prière passe plus vite. Ça, c'est des petits détails. Mais ce petit détail-là, il fait un grand changement au ciel. Au ciel, Akadosh Baruch Hu le regarde d'une différente manière. Ceci dit pour toutes les prières que nous avons le Mishé Berach, c'est ça, quand quelqu'un demande à la Torah, c'est ça, quand il monte à la Torah, on l'appelle toujours pas au nom de son père. Par exemple, si quelqu'un s'appelle Moshe, on l'appelle Moshe, fils de David, par exemple. Mais quand on le fait le Mishé Berach, encore, on le fait au nom de sa mère. C'est ça? Pourquoi? Parce que quand il monte à la Torah, c'est quelqu'un qui appartient à une certaine tribu. Aujourd'hui, on n'a plus cette tribu, mais ça va revenir. Mais il appartient à une certaine tribu. Il faut l'appeler au nom de son père. Mais quand on le bénit, c'est quelque chose de personnel. Personnel, plutôt, c'est le nom de la mère. Ce qui veut dire, c'est des petits détails. Mais dans la prière, ces petits détails font de grandes différences. Bon, on va s'arrêter là. Attention, on va parler un peu de la halakha. Je vous laisse un temps pour qui c'est. Encore.
On dit que Hachem est toujours
au courant
de ce que vous pensez.
Oui.
Alors comment est-ce que quand on se trompe, il nous répond selon ce qu'on a dit et non, et pas selon ce qu'on a pensé?
Parce que la parole, c'est plus fort que la pensée. Oui, la parole, c'est plus fort que la pensée. Si par exemple, vous n'aurez rien dit, et vous l'aurez pensé seulement, à quoi je trouve, vous aurez répondu selon votre pensée. Par exemple, Chas v'shalom, quelqu'un qui est surmuet, et qui prie de fond de son cœur. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas le prendre à cause qu'il ne dit rien? Non. Akadosh Baruch Hu prend en considération sa pensée. Et quelqu'un qui se trouve dans une situation qui ne peut pas prier. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est en prison, il n'a pas le droit de prier. Parce que la place est sale. Il y a une toilette et l'endroit est sale. Il n'a pas le droit de mettre le nom d'Hachem. Il n'a pas le droit de prier. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ne va pas prier Hachem? Non. Il va prier en pensant. Et le fait qu'il pense à Akadosh Baruch Hu, c'est exactement qu'est-ce qu'il est en train de penser. C'est sûr, de temps en temps, il sort de cette cellule ou de cette place qu'il est, et ils ont des places, ils ont des synagogues. Aujourd'hui, dans les prisons, ils ont des places pour les synagogues, ils ont des places, mais pour dire que dans certaines situations où la personne ne peut pas prier, et ça, c'est la pensée qui va compter. Mais dans le cas qu'il y a un conflit entre sa pensée et sa parole, Akadosh Baruch Hu va prendre en considération sa parole. C'est ça? Sauf des grands tzadikim, qui peuvent, ils font ce qu'on appelle tromper les anges. Il y a des grands tzadikim qui savent comment tromper les anges. Qui veut dire quoi? Il y a une histoire comme ça dans le Talmud, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a envoyé son fils Rabbi Lazar de recevoir une bracha de certains tzadikim. Quand il est venu chez eux, ils ont dit que Bezrat Hashem, ta table sera toujours renversée. Et ta maison sera toujours désordonnée. Et toutes sortes de choses comme ça. Lui, il a commencé à pleurer. C'était un enfant, il a commencé à pleurer. Quelle bénédiction il lui donne. Il est retourné chez son père, il m'a dit, regarde qu'est-ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont maudit, tout ça. Il dit, non mon fils, ils t'ont béni. Au contraire, la table renversée, la maison désordonnée, ça veut dire que tu auras beaucoup d'enfants. Mais s'ils te le diront, peut-être il y aura un arak, tu n'auras pas de ces enfants. Alors le fait qu'ils l'ont dit, eux qui savent comment se connecter au ciel, ils savent comment renverser la prière, mais au ciel c'est dit à la manière à renvers. Mais ça, c'est des grands tzadikim qui peuvent le faire. C'est pas donné à n'importe qui de dire une chose et ça veut dire l'autre chose. Ça, c'est rien que de grands tzadikim qui peuvent le faire. Nous devrons nous concentrer sur la prière comptée. Ça veut dire que la prière marche droit. Pour? Bat Hashem, Kakosh Baruch Hu, Yomar Yifra Shlema, il retourne à sa maison, Bari Veshalem, Amen, Kera Tzom, Bat Hashem. Sarah et Avram. Sarah ou Avram. Ça veut dire, si c'est un homme qui monte à la Torah, Ben Avram. Si c'est une bénédiction qu'il doit dire, Bat Sarah. Bat Sarah. C'est toujours encore homme, et ça veut dire pour les hommes, c'est Avram. Pour certaines choses. Batsara. Batsara. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, on va faire un peu de l'halakha. Alors l'halakha aujourd'hui, je voulais vous parler un peu, Baruch Hashem, c'est la saison de l'été et c'est la saison de mariage. Alors on va se parler, il y a beaucoup d'halakhot qui concernent le mariage, on va parler une halakha qui est très courante, surtout dans cette saison, c'est le Sheva Brachot, le 7 bénédictions en Sheva Brachot. Même si vous êtes déjà marié, il vous arrive aussi d'être invité dans Sheva Brachot et des fois il faut savoir quoi faire parce qu'il y a des certaines lois qui s'appliquent à cette Sheva Brachot. Alors tout d'abord, on va expliquer qu'est-ce que c'est Sheva Brachot. Ramim, la Gemara explique que quand vous mangez une pomme, il faut faire une bénédiction, Boré Priahetz, ou quand vous mangez une banane, Boré Priadama, sur une femme aussi, il faut en faire un bracha. Quelle est la bracha? Le Sheva Brachot. Le Sheva Brachot, le 7 bénédiction d'hôpital, c'est la bracha pour une femme. Et c'est très important, sans ça, le couple n'est pas considéré comme marié. Ça veut dire que même si l'homme il donne à la femme la bague, c'est pas marié. Alors on va expliquer. Dans le mariage, il y a deux sections. Il y a le fiançailles, il y a le mariage. Et c'est deux cérémonies complètement différentes. Seulement aujourd'hui, ils l'ont combiné. Et vous allez comprendre tout de suite. À l'époque du Talmud, par exemple, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans peut-être, d'abord le couple s'est fiancé. Alors le fiancé donnait à la fiancée, il a donné une bague. Tu es sanctifié, areat mikudesh etli, tu es sanctifié à moi, betaba adzo, avec cette bague, comme la loi de Moshe et Israël. Là, la fiancée retournait habiter avec ses parents, on lui a donné un an pour se préparer. On lui donnait un an pour se préparer. Des fois, il se voyait, des fois, il ne se voyait pas durant l'année. Et le mari aussi se préparait un peu de parnassa pour qu'il puisse se supporter. Après, ils se rencontraient, elle est déjà fiancée. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la choupa. La choupa, c'était quoi? C'était cette petite tente que vous voyez. Et là, il prenait une coupe de vin, il faisait le Sheva Brachot. Ça, c'était fiançailles et choupa. Deux choses complètement différentes. Maintenant, aujourd'hui, que le temps a changé, ils ont vu que ça ne marche pas d'être fiancé. Et après, pourquoi? Parce que si Chas v'Shalom, il y a beaucoup de gens qui, à l'époque aussi, qui ne réalisaient pas que quand la fille est fiancée, elle est mariée. Elle est carrément mariée. S'ils veulent briser ce lien, il faut donner un guet. Pour un fiançaille. Ça, pour un fiançaille juif, il faut donner un guet. Maintenant, ce n'est pas le même fiançaille que nous avons. Le fiançaille que nous avons aujourd'hui, il est symbolique. C'est ça, il est symbolique. Ça, il ne veut rien dire. La seule chose, que s'il se sépare, c'est sûr que le lendemain, elle aura un coup de téléphone, retourne-moi ma bague. C'est la seule chose qui peut arriver. Pas plus que ça, il ne peut rien demander d'elle, elle ne peut rien demander de lui, c'est tout. Mais à l'époque, c'était grave, c'était carrément un mariage. C'est ça? La seule chose qui manquait, pourquoi ils ne pouvaient pas habiter ensemble? Parce que le Khatan n'a pas fait ses Sheva Brachot. C'est tout. Alors, ils ont décidé à un certain moment, quand ils ont vu que vraiment le couple ne comprenait pas l'engagement dans le fiançailles, parce que des fois, cette fille trompait son fiancé. Et c'est grave. Parce que c'est comme une femme mariée trompait son mari. C'était grave. Ou le Khatan. Alors, ils ont décidé que tout se fasse, si on veut dire entre guillemets, sous le même toit. Qui veut dire en même temps le fiançailles et le mariage. Comme ça, il n'y a pas de laps de temps qu'un peut tromper l'autre, ou quoi que ce soit peut arriver. On le fait en même temps. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instauré que le jour même, quand ils vont se marier officiellement, ils vont se fiancer. Alors, si vous allez faire attention, la première cérémonie, c'est le fiançailles. Alors, le rabbin, il met le deux en face, c'est ça, et il leur fait la bénédiction, « Asher kidisham mitzvotah vitzvanu al ha'areot, baruch atah Hashem, mekadesh Israël, aide chupa bekidushim. » Le rabbin boit un peu, il donne aux deux à boire. Tout de suite après, il y a la bague. On demande au Khatan de donner la bague. Il met la bague et là, on dit Mekoudeshet. Mekoudeshet veut dire fiancé. Mekoudeshet, quand l'assistance, quand il donne la bague, il dit Mekoudeshet. Ça veut dire que cette fille a été maintenant, elle est fiancée. C'est tout. Elle n'est pas encore mariée. Elle n'est pas encore mariée. Maintenant, il faut faire une petite interruption entre cette cérémonie et la cérémonie d'après. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer. On vient de faire une bracha sur une coupe de vin. Ce coupe de vin, on a bu. Le rabbin a bu et l'a donné au couple à boire. Maintenant, tu dois refaire sur le même coupe de vin, des autres bénédictions. Mais comment tu peux faire sur le même vin, Boré Priagefen deux fois? Tu peux pas faire deux fois Boré Pré Agéfen. C'est ça? Alors, il faut faire une certaine interruption. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on fait porter le talit au khatan. Le talit que la kala a acheté pour le khatan, porte le talit. Si c'est en jour, il fera deux brachot. L'itatef betzitzit et shechianu. Si c'est déjà la nuit, qu'on porte pas normalement le talit, mais on peut faire shechianu sans le talit, sans la bracha de talit, il fera shechianu et il portera le talit. Une chose. Deuxième chose, pour continuer l'interruption, on lira la ketouba. Il lise la ketouba et ça fait encore une petite interruption entre le fiançaille et le mariage qui va se faire bientôt. Il lise la ketouba. Une fois que la ketouba est lue, là, on a fait une interruption. On retourne le coupe de vin. On la remplit. On la remplit cette coupe. Avec du, on la déborde un peu. Et là, on recommence la deuxième cérémonie qui est Sheva Brachot. Sheva Brachot, pourquoi on appelle Sheva Brachot? Parce qu'il y a sept bénédictions. Maintenant, il faut quelque chose comprendre. Sheva Brachot, il y en a beaucoup qui pensent. Sheva Brachot, ça veut dire 7 jours. C'est pas 17, 7 jours. C'est 17 bénédictions. 7 bénédictions, ça ne veut pas dire 7 jours. Ça doit être 7 jours. Mais durant ces 7 jours, vous pouvez faire sans Sheva Brachot, si vous voulez. C'est ça la différence. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un Sheva Brachot par jour. Qui pensent que, voilà, un jour, deux jours, Non. Par jour, tu peux faire autant de Sheva Brachot que tu veux. Seulement, il faut que tu fais minimum un par jour. Le minimum, c'est un par jour. C'est ça que Sheva Brachot veut dire. Sheva Brachot se réfère qu'aux bénédictions, ça ne réfère pas au nombre de fois qu'on doit faire le Sheva Brachot. C'est tout que ça veut dire. C'est ça? Alors, on va expliquer certaines lois qui s'appliquent au Sheva Brachot. Oui. Non, il faut le faire 7 jours. Il faut 7 jours. Seulement, hein, minimum, c'est une fois par jour. Une fois, un repas par jour. Minimum. Mais si vous voulez faire 5 repas par jour, c'est votre droit. Parce que les gens pensent.
Si on ne peut pas les repas des 7 jours, est-ce qu'on peut faire un brachot dans la cérémonie religieuse?
Non, alors on va expliquer. Bon, le Chachamim, ils ont dit que quand un couple vient s'unir, il ne faut pas que le khatan disparaît le lendemain du mariage. Imaginez-vous quelqu'un qui travaille en route, sur la route. Il va se marier et demain il va dire à sa kala, bon, je dois prendre la route, je dois aller travailler. Ça. Alors ils ont assuré que durant 7 jours, ils doivent rester ensemble. Non seulement qu'ils doivent rester ensemble, ils doivent rester avec leur famille. Ils n'ont pas le droit d'aller en lune de miel le lendemain. Ils doivent terminer la semaine et après qu'ils vont là où ce qu'ils veulent. Mais d'abord, ils terminent la semaine ensemble avec leur famille. Ça, c'est une chose. Maintenant, durant le premier Sheva Brachot, c'est celui qui s'est fait sous la choupa. C'est le premier. Et c'est le jour 1. Maintenant, le Sheva Brachot se fait que pour 7 jours. Alors, qui veut dire, si quelqu'un se marie le lundi, son Sheva Brachot termine quand? Dimanche. Mais maintenant, il se marie lundi quand? Est-ce qu'il se marie lundi quand il fait encore jour? Ou est-ce qu'il se marie lundi quand il fait nuit? S'il se marie lundi quand il fait jour, alors c'est vrai, son Sheva Brachot, son dernier Sheva Brachot, se termine dimanche en journée. Mais s'il s'est marié lundi quand il fait nuit, son Sheva Brachot se termine dimanche soir. Ça veut dire que tu comptes le Sheva Brachot par rapport au mariage, par rapport au premier Sheva Brachot. Le premier, c'est celui qui est sous la choupa, et c'est celui qui indiquera combien, quand le prochain Sheva Brachot s'arrêtera. Alors, c'est 7 jours, avec 7 bénédictions, 7 repas minimum, c'est ça? Le kala et le khatan et la kala ensemble. Pour faire un Sheva Brachot, il est nécessaire d'avoir 10 personnes, 10 hommes, c'est ça? Mais, chaque jour du Sheva Brachot, il faut avoir deux nouveaux personnes qui n'ont pas assisté au mariage. C'est ça? Chaque jour. Hein? Bon. Parce que, ils ont dit que ce Sheva Brachot, c'est pour donner la joie au Khatan et la Kala. La joie de la Khatan et la Kala augmente quand ils voient qu'un nouvel personnage est venu assister à leur Simcha. S'ils voient le même personne qui a assisté à leur mariage, après 7 jours, c'est la même personne, alors il n'y a pas de joie. Mais s'ils voient chaque fois que de nouvelles personnes viennent pour assister à leur simcha, ça leur donne de la simcha. Alors, obligatoire qu'à partir du lendemain du mariage, dans chaque Sheva Brachot, 10 personnes, 10 hommes, que parmi ces 10-là, deux qui n'ont pas assisté au mariage. Une fois qu'une personne assiste dans le Shabbat Brachot, il devient comme tout le monde, et là, il faut de nouveau. Exception de Shabbat, Shabbat, ce n'est pas nécessaire d'avoir de nouveaux personnes. Ça peut être toutes les personnes qui ont assisté déjà dans le mariage. Sauf Soudash Lichit, que dans Soudash Lichit, il faut avoir encore deux personnes qui n'ont pas assisté au mariage. Pourquoi? Parce que Soudash Lichit, c'est vers le soir déjà. Alors le soir, le vendredi soir, c'est pas nécessaire d'avoir de nouveau. Le samedi matin, c'est pas nécessaire d'avoir de nouveau, mais toujours avoir 10. Oui, on a besoin d'avoir toujours 10. Et le Soudash Lichit, obligé d'avoir encore deux personnes qui n'ont pas assisté au mariage. Maintenant, oui. Non, hommes. 10 hommes. Et le 2, c'est deux nouveaux hommes qui doivent assister. Maintenant, obligatoire que la Khatan et la Kala soient là. On ne peut pas dire non, parce que des fois, il y a le Khatan sans la Kala, ou la Kala sans le Khatan, ça ne marche pas. Non seulement que le Khatan et la Kala doivent être ensemble dans le Shabbat Brachot, tous les deux sont obligés de faire une Netilat Yadayim. Parce que les 10 personnes qui vont faire la bénédiction, ils sont obligés de se laver les mains en faisant le moti. S'ils n'ont pas fait le moti, ils n'ont pas le droit de faire Shabbat Brachot. Alors, si vous avez 10 personnes, tous les 10 doivent se laver les mains. Mais, si ce n'est pas tous les 10 qui veulent se laver les mains, au moins il faut assurer que 7 personnes se sont lavées les mains. Et quand on fait le Shabbat Brachot, ceux qui n'ont pas mangé le pain n'ont pas le droit de réciter le Shabbat Brachot. Normalement, on peut diviser le Shabbat Brachot, qui veut dire on peut donner une bénédiction à chacun. C'est pas conseillé, mais dans un mariage, que déjà il y a beaucoup de stress et chacun tire de son côté, bon, on commence à distribuer les brachot. Mais durant les 6 jours qui restent, il est de préférence qu'une seule personne fasse toutes les bénédictions. C'est ça? Et comment on le fait? Il y a un peu une différence entre l'opinion séfarade et ashkenaz. Pour par exemple, ils ont mangé, 10 personnes ont mangé ensemble. Parmi les 10, il y avait 2 personnes qui étaient, 2 hommes qui n'ont pas assisté au mariage. On s'assoit, on mange ensemble, on fait Birkat Amazon, on apporte une coupe de vin avant de commencer Birkat Amazon. Le séfarade le font sur une coupe de vin. Les ashkenazes font sur 2. Attention, en Israël, ils ont adopté la coutume ashkenaz qui font sur 2 coupes de vin. La différence est la suivante. Quand on le fait sur une coupe de vin, alors le Shiva Brachot commence toujours par Savri Maranan, Baruch Ata Hashem, Elokein Echolam, Boré Pri Agefen, suivant de 6 autres bénédictions. Quand on le fait sur 2 coupes de vin, la première bénédiction, ce n'est pas Boré Pri Agefen, elle sera la dernière sur la deuxième coupe. Pour qu'on puisse dire Geffen sur une deuxième coupe et boire, et les autres bénédictions qui étaient avant, ils s'accompagnent à cela. Notre coutume encore, c'est une coupe de vin, Geffen en premier, et toutes les bénédictions qui suivent juste après. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas distribuer les bénédictions. Pourquoi? Parce que si le premier il fait Geffen, pour lui, ce serait une interruption d'attendre que quelqu'un d'autre, lui, il fait une bracha. S'il fait tout d'un suite, ça va, ça fait partie de la bracha de Geffen. Mais s'il doit attendre que l'autre fait le temps qu'on passe le verre, ceci peut être considéré comme une interruption, surtout quand des gens, des fois, ils parlent. Il ne faut pas parler. Dès qu'on a terminé Birkat Amazon, il ne faut pas que l'assistance parle. Tout le monde doit être en silence, écouter tout le brachot depuis le début Geffen jusqu'à la fin, pour qu'il n'y aura pas d'interruption quand on a dit Geffen. Celui qui a fait à Geffen, il doit boire un peu, et ensuite il envoie chez la Khatan et la Kala, et ensuite il donne à tout le monde. Maintenant, oui. Oui, ça c'est une coutume qui est déjà... Oui, ça a été déjà pris en considération, mais c'était inévitable de l'arrêter. Ça a été pris en considération, mais comme je dis, sous la choupa, il faut savoir, jusqu'après la choupa, dès que la choupa se termine, tout le stress commence à descendre un peu. Parce que jusqu'à la choupa, la Gemara dit qu'il y a beaucoup de stress. Même au temps de Talmud, c'est le stress. Tout le préparation des mariages, c'est du stress pour de deux côtés. Alors là, on va ajouter là-dessus, on va dire, si vous allez dire, c'est une personne qui va faire, qui c'est? De le côté de Khatan, de côté de la Kala, ils vont se disputer. Comme ça, ils donnent à tous, ils ont 7 personnes à qui distribuer, 6 personnes à qui distribuer, 3 et 3, et là, ils enlèvent tout ce problème. Alors bon, alors comme on a dit, c'est très important qu'il y aura 10 personnes, que le khatan de la kala se lave leurs mains, et il y a une coutume qu'en Israël, mais on va expliquer comment ça nous applique à nous. Ça nous applique à nous, qu'est-ce qui arrive dans le cas que vous n'arrivez pas à avoir 10 personnes? Il y a 7, il y a 8, il y a 9. Vous n'arrivez pas à trouver. Ou vous avez trouvé 10, mais tous les 10 ont assisté à votre mariage. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Dans ce cas, le Shavuot Brachot n'est pas annulé. Au lieu de 7, il y aura 2. On fera la première et la dernière. La première, c'est Boré Pri Hagefen. La dernière, Odi Shama Be'ari Yuda B'chutzot Yerushalayim Kol Sason V'Kol Simcha Ochata Hashem Mesameach Tzion Banea. Alors, quand il n'y a pas 10 personnes, ou quand il y a 10, il n'y a pas de nouveaux personnages qui sont venus assister, vous direz la première et la dernière, mais vous ferez quand même sur une coupe de vin, on vous le direz, ça serait le Sheva Berachot. Qui veut dire, si la Khatan et la Kala, par exemple, ils mangent un petit déjeuner. Vous savez qu'il y a des Marocains qui ont le lendemain du mariage, ils ont coutume de faire des chfinj avec du lait, avec de ça, et on va dire qu'ils font tout un repas. Il faut tout le temps, c'est un petit déjeuner. Même dans un petit déjeuner, vous pouvez faire brachot. Mais il n'y a pas, il y a rien que 5 personnes ou 6 personnes de la famille, pas grave. Vous pouvez faire shabbat brachot avec une coupe de vin, mais vous direz la première et la dernière beracha. Ça serait le shabbat brachot dans ce cas. Si la personne se marie avant le coucher du soleil, donc déjà elle a fait le premier, cela ne peut pas. Si la personne. Elle se marie avant le coucher du soleil. Avant, oui. Donc elle a fait. Après ça, la soirée finit à 1h du matin. Il reste entre famille et son. Et il faut encore shabbat brachot. Oui. Non, non, c'est pas stam, c'est le jour de mariage. Le lendemain, ça veut dire que tu vas dire que après une heure de ça veut dire une heure du matin, que ça veut dire que ça veut dire que ça compte comme. Oui, ça peut compter comme une pour le lendemain. Aussi, mais je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que on va dire que le lendemain ils vont pas faire un repas. Il ne veut pas faire le repas. Il veut que ce shabbat brachot compte le repas du jour. Oui, vous pouvez le faire. Mais pourquoi perdre?
Non, c'est parce qu'elle a
oui, non, mais de toute façon, le lendemain au soir, le lendemain du mariage au soir, de toute façon, ils vont faire un autre repas. C'est ça? Non, vous pouvez le faire durant toute la journée.
Le premier a été fait avant le coucher du soleil.
Durant toute la journée. Vous avez tout, depuis le matin jusqu'au soir, jusqu'à 1h, 2h du matin, c'est pas grave. Vous avez toute la journée pour faire le repas, le shabbat brachot.
Le dernier qui doit être fait avant.
C'est ça. Ça veut dire, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui arrive s'ils ont raté un jour? S'ils ont raté un jour, bon, ils ont raté. Il n'y a pas de rattrapage là-dessus. C'est raté. C'est comme Hanouka. Hanouka, nous sommes tenus obligés d'allumer des bougies de Hanouka chaque jour. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un a oublié un soir d'allumer les Hanouka? Le lendemain, il doit suivre avec tout le monde. Il ne va pas dire, hier, je n'ai pas allumé, je dois rattraper. Il n'y a pas de rattrapage. La même chose ici. Normalement, chaque soir, il faut lui faire ce shabbat brachot. Si quelqu'un, par une raison ou par une autre, il a raté une deux soirs, alors, pas grave, il continue le lendemain.
Et on peut le faire et pour le brunch et le soir. Il n'y a pas de brachot à l'évatala parce que vous avez dit que c'est...
Vous pouvez faire autant que vous voulez. Autant que vous voulez. C'est bon? Le prochain cours, la semaine prochaine, 8h30, attaché.